Bonjour à chacun d'entre vous. Vous connaissez, je pense, tous l'émission culturelle « Question pour un champion ». Alors, j'aimerais vous poser une question. Ah, il n'y a pas de, comment on appelle ça, un buzzer, là, cette espèce de champignon sur lequel on appuie et qui ne marche jamais. Mais je vous demande d'attendre la fin de la question avant d'y répondre. Alors, j'annonce... Culture biblique, évidemment, ça ne peut pas être autre chose, ici même. Je suis un livre de la Bible qui contient 66 chapitres. Je me situe sur trois périodes de l'histoire. D'abord de 740 à 700 avant Jésus-Christ, puis deux siècles plus tard, je transporte mon lecteur à Babylone à la fin de l'exil, et enfin je lui fais entrevoir les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habitera. Une copie de mon livre, presque intégrale, datant du 1er siècle avant Jésus-Christ, est exposée au musée du livre à Jérusalem. Le quatrième évangile cite d'affilée mon célèbre chapitre 53 et la vocation de mon auteur au chapitre 6. Je suis. Pouvez-vous compléter votre réponse ? Ah, je suis obligé de vous refuser la réponse. Je reprends ma question, la première phrase, le premier mot, je suis un livre de la Bible, le livre d'Ésaïe et non pas le prophète Ésaïe. Mais enfin, en disant Ésaïe, je pense que vous pensiez au livre du prophète Ésaïe. Voilà, j'espère que vous l'avez tous trouvé, c'est pas compliqué, c'est un livre... important dans la Bible, et c'est dans ce livre que j'aimerais que nous méditions ce matin, et vous pouvez donc déjà inscrire sous la ligne titre, le titre de ce message, et écrire « Dieu appelle ses serviteurs ». Et bien sûr, les textes, c'est Ésaïe chapitre 6. Alors, Ésaïe, c'est donc un prophète, chapitre 6, il se trouve avant Jérémie, et nous lirons tout le chapitre 6. L'année de la mort d'Ozias, le roi Ozias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire ». Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va, tu diras à ce peuple, « Écoutez toujours, mais ne comprenez rien. Regardez toujours. » mais n'en apprenez rien, rend insensible le cœur de ce peuple, endurcit ses oreilles et bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, n'entende de ses oreilles, ne comprenne avec son cœur, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur ? Et il répondit, jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains. Que le sol dévasté soit une désolation, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et que le pays soit tout à fait abandonné, et s'il y reste encore un dixième des habitants, il repassera par l'incendie, mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, sa souche donnera une sainte descendance. » Ésaïe, un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Pas parce qu'il a 70 chapitres, 70 comme le nombre des livres bibliques dans nos Bibles, mais il est sans doute celui qui porte le plus l'espérance du royaume de Dieu au peuple de Dieu, de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Et son message d'espérance va trouver son accomplissement en Jésus-Christ, lors de sa première venue dans l'abaissement d'un petit enfant, annoncé au chapitre 6 de son livre, de sa mort et de sa résurrection, annoncé au chapitre 53, mais aussi de la gloire du royaume, annoncé à la fin de son livre. Ces prophéties sont reprises par les auteurs du Nouveau Testament, Matthieu, Luc pour la naissance, Jean, et dans son évangile et à la fin de son Apocalypse, où il mentionne les prophéties d'Ésaïe. C'est lui qui présente en quatre tableaux le serviteur souffrant, dont le point d'orgue est ce chapitre 53. C'est lui qui parle du loup et de l'agneau qui auront un même pâturage, du lion et du bœuf qui mangeront du foin et qui séjourneront ensemble en paix dans la nouvelle création de Dieu. Plus qu'aucun autre prophète, il a vu le plan du salut de Dieu se profiler à travers l'histoire des hommes pour aboutir à la victoire finale et totale de Dieu sur un monde pécheur et rebelle. Le chapitre 6 nous parle de l'appel, de la vocation d'Ésaïe. Il a reçu une vision de Dieu. D'ailleurs, tout son livre est une vision. Ésaïe commence son livre d'Ésaïe en disant « Vision, vision d'Ésaïe, fils d'Amoz. » Alors, dans cette vision qu'il reçoit, où il voit le Seigneur, comment Dieu se présente-t-il ? L'apôtre Jean écrit dans son évangile que personne n'a jamais vu Dieu. Jean 1,18. Jésus nous dit que Dieu est esprit et qu'il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Et là, personnellement, je mets un E majuscule, c'est-à-dire par le Saint-Esprit et en vérité. Jean 4,24. Cependant, Ésaïe dit « Je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. » La vision qu'il a reçue est celle d'un grand roi majestueux dont le pan de son vêtement royal remplit le temple de Jérusalem, car nous sommes bien ici dans le temple de Jérusalem. Et Dieu se présente à Ésaïe comme le roi de l'univers, le roi de sa création, mais aussi au milieu de son peuple, celui qu'on doit adorer. Quand on entrait dans le temple de Jérusalem, et c'est particulièrement vrai à l'époque de Jésus, on y rencontrait d'abord les marchands du temple. Pourquoi étaient-ils là ? Eh bien, tout simplement parce que les gens venaient au temple pour se purifier avec un animal, et ceux qui n'en avaient pas, ils en achetaient un sur place. Dieu a voulu qu'on n'entre pas dans le temple sans se purifier. C'est-à-dire que la première chose dont on doit prendre conscience en entrant dans le temple, c'est d'avoir besoin d'être racheté de son impureté, de ses péchés. Pourquoi ? Parce que Dieu se présente d'abord comme un Dieu saint, et même trois fois saint. Quand on est saint dans la perfection, on a besoin d'être trois fois saint. Je crois que c'est une façon d'exprimer, c'est un superlatif. Et on pourrait le traduire ainsi, Dieu est hautement saint, ou il est saint au plus haut degré, dans la perfection. Il ne peut pas y avoir plus grande sainteté que celle de Dieu. Un peu peut-être, mais l'image, toute image est relative, comme la neige du Mont Blanc, mais pour combien de temps encore, exempte de toute pollution, blanc dans sa blancheur immaculée. La Bible est le livre des superlatifs, des dimensions infinies, du temps éternel, de la sainteté trois fois sainte. Oui, Dieu est saint et c'est pourquoi on ne s'approche pas de lui facilement. Il est bon de rappeler la sainteté de Dieu, car si Dieu pardonne aux pécheurs repentants, il ne minimise pas le péché. Jeudi dernier, avec peut-être quelques-uns d'entre vous, j'étais à un enterrement, celui de Thierry Nichelm de Mâcon, qui était membre de l'Église réformée, mais que j'ai d'abord connu il y a une trentaine d'années. Lorsque je suis arrivé à Villefranche, on m'a demandé, je crois que c'était au château de Saint-Albin ou dans l'église qui en dépendait, de donner un enseignement. Et c'est là où je l'ai d'abord rencontré. Et là, donc, à son enterrement, 59 ans, c'est pas vieux pour mourir, un petit texte a été lu, je crois, si mon souvenir est exact. Il provenait de l'ancien pasteur de l'église de Mâcon et Villefranche, Luc Serrano. Et dans ce texte, il était écrit que quand on sera dans la présence de Dieu, je cite de mémoire, à notre mort donc, le péché ne comptera pas. Comme si Dieu étant tellement au-dessus de tout que le péché est pour lui moins que rien. Et moins que rien, c'est rien. Ce n'est pas ce que nous dit Ésaïe. Il ne nous dit pas, loin de là, que quand on est dans la présence de Dieu, notre péché est moins que rien. Devant cette sainteté au suprême degré, Ésaïe se sent profondément impur, pécheur. Vous constatez qu'aucune phrase n'a été prononcée depuis le trône de Dieu. Aucun jugement par la parole. Dieu n'a pas encore parlé. Et pourtant, Ésaïe se sent coupable au plus profond de lui-même. Sa conscience seule lui révèle devant Dieu le fait simplement d'être devant Dieu, d'être pécheur. Malheur à moi, car mes lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et ici, il ne s'agit pas, bien sûr, des armées militaires. Il s'agit, je crois, de toute la création, du maître de toute la création, physique et spirituelle. Il vous est peut-être déjà arrivé, mais j'ai déjà prononcé cette image plusieurs fois. Imaginons que vous rentrez de vacances. Voilà, 15 jours, 3 semaines de vacances, vous avez tout fermé chez vous, les volets, et vous entrez, la première chose que vous faites, c'est le mois d'août, il y a du soleil, vous ouvrez les volets, et vous voyez dans les raies de lumière, la poussière qui vole. Si vous n'aviez pas ouvert les volets, vous n'auriez pas vu cette poussière. Vous n'auriez même pas vu la poussière sur les tables, sur les meubles. Mais c'est la lumière qui l'a révélé. Dieu est lumière. Et c'est cette lumière-là qui révèle que nous sommes des pécheurs. Ésaü a donc vu le Seigneur dans toute sa majesté, dans toute sa gloire. Et il a pu continuer à vivre. Mais pour cela, il a fallu qu'il reçoive la purification de son impureté. Un séraphin, ou un séraphim, a volé à son secours. Alors, qui sont ces séraphims mystérieux? On a tellement de la peine à les définir qu'on n'a pas de nom en français pour les définir. C'est le mot hébreu qui, voilà, qui par transcription passe dans le langage de nos Bibles, parce qu'on n'arrive pas déjà même à bien le définir correctement. Littéralement, saraph en hébreu, ça veut dire brûlant. Et on le retrouve dans ces serpents brûlants du désert qui mordaient mortellement les Israélites. Et vous savez qu'il fallait qu'ils regardent un serpent d'airain pour recevoir la vie et la guérison. Ce sont des êtres, des créatures mystérieuses ou des représentations mystérieuses. Et je crois qu'il faut leur laisser leur part de mystère attachée à leur nom. On les retrouve un petit peu plus loin dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14 et chapitre 30, sous l'expression « dragon volant ». Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des dragons courir dans la campagne ou ailleurs. Il y en a sur certains bâtiments chinois, des dragons, mais ce sont des êtres mythiques, symboliques. Alors, il ne faut pas les confondre, ces séraphins, avec les chérubins, les kéroubim, là aussi, c'est une transcription, qui sont des représentations ailées avec des traits humains. On les retrouve au-dessus de l'arche de l'Alliance, dans le temple. Et également, lorsque Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, ils étaient là avec leur épée de feu pour protéger l'entrée de l'arbre de vie. Ici, revenons à Ésaïe 6, il faut voir en ces séraphins des êtres de la cour céleste qui entourent Dieu dans le mystère de sa gloire, de sa glorieuse présence. Et ce sont ces séraphins. Nous sommes dans le temple. Il y a un autel de parfums avec des cendres, des braises, qui purifient par le feu les lèvres d'Ésaïe. Pourquoi les lèvres? Ce sont les lèvres qui symbolisent son ministère, celui de la parole, celui de prophète qui annonce la parole de Dieu. « Ta faute est enlevée, ton péché est expié. » Il est prêt maintenant, purifié par le Seigneur lui-même, à être utilisé par le Seigneur. Mais avant d'aller plus loin, je crois qu'il y a encore une autre représentation de Dieu que nous avons dans ce texte, au verset 8. « Qui enverrai-je qui marchera pour nous ?» Pourquoi ce « nous » Dieu ne dit pas « pour moi », il dit « pour nous ». Pluriel de majesté, un peu comme Louis XIV, qui disait, qui signait, si ma mémoire de lycéen est exacte, selon notre bonne volonté ou notre volonté, quelque chose comme ça. Hein. Voilà, pluriel de majesté, non, je ne crois pas. Je pense que cela implique ce qu'on appelle la Trinité. Dieu ici, le Seigneur, qui se présente à Ésaïe, est un Dieu dans sa totalité. Père, Fils, Saint-Esprit. Et j'en veux pour preuve l'évangile de Jean au chapitre 12 et au verset 39 qui cite le verset suivant, le verset 9, il dit, et Jean applique ce « il » à Jésus-Christ lui-même. Jean chapitre 12 verset 41, Jean écrit, « C'est ce que dit Ésaïe lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui, et il parle de Jésus précédemment. » Jésus, pour l'apôtre Jean, est bien présent dans la parole qui est adressée au prophète Ésaïe. Et plus fort encore, l'apôtre Paul, s'adressant aux Juifs venus le visiter dans son assignation à résidence à la fin du livre des Actes des Apôtres, il dit à ces Juifs qui ne reconnaissaient pas l'œuvre de Jésus venu vivre parmi les hommes, il dit ceci, je cite, « C'est avec raison que le Saint-Esprit parlant à vos pères par le prophète Ésaïe a dit » et de citer les versets 9 et 10. C'est avec raison que le Saint-Esprit dit, et il cite ici ce que Dieu lui-même dit à Ésaïe. Nous avons donc à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui se présentent dans cette vision à Ésaïe. C'est un appel, on pourrait dire, à la cantonade que Dieu envoie. Qui s'adresse donc pas seulement à Ésaïe. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Ésaïe spontanément répond, me voici. Et tout de suite après, envoie-moi. Car il sait que toute réponse à l'appel de Dieu nécessite d'entrer dans sa volonté, de faire ce que Dieu demande. Il ne servirait à rien de dire, me voici, et puis de prendre un chemin contraire à ce que Dieu veut. Et c'est maintenant, c'est là que les choses se gâtent. Tout est bien jusqu'à maintenant. Dieu est un Dieu saint. C'est vrai qu'on ne peut pas vraiment tenir devant sa sainteté, mais c'est un Dieu qui pourvoit la purification d'Ésaïe. C'est un Dieu qui dit « Qui marchera pour nous ?» Ésaïe dit « Ben moi, je suis disponible, je suis là, envoie-moi !» Mais la parole qu'il va recevoir n'est pas d'un grand encouragement. Elle revient à dire, parle, Ésaïe, parle. Mais de toute façon, personne ne t'écoutera. Prédicateur, le dimanche matin, à l'église baptiste de Villefranche, parle. Mais de toute façon, personne ne t'écoutera. Non, j'exagère, bien entendu. Mais quand même. Annonce ma parole. Mais le peuple aura les yeux fermés et les oreilles bouchées. Alors, à quoi cela sert-il de parler dans ce cas-là? J'y vois essentiellement deux raisons. Premièrement, parce que la parole de Dieu est là pour être annoncée, même si les gens ne veulent pas l'écouter. C'est la parole de vérité. Il n'y en a pas d'autre. Et puis, avec Dieu, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que même avec une parole si décourageante, si négative, il y a toujours une espérance, un espoir à la fin de ce chapitre 6. Comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, sa souche donnera une sainte descendance. Ésaïe parlera à plusieurs reprises, d'un reste. Non pas tout le peuple infidèle, mais un reste qui, lui, sera fidèle au Seigneur. Ésaïe en fait partie, et bien d'autres. Et ce reste se transmettra à travers toutes les générations. Et même si Jésus a été rejeté par son peuple, un reste lui a été fidèle. C'est ce reste que l'on retrouve dans la chambre haute avant la Pentecôte, qu'on appelle les disciples de Jésus. Ne sommes-nous pas dans la même situation? Est-ce facile de communiquer la parole de Dieu aujourd'hui? Non, bien sûr. Et pourtant, c'est là ce que le Seigneur nous demande. Et c'est bien ce que nous faisons chaque dimanche, et j'espère aussi quand nous parlons du Seigneur, quand nous témoignons. L'Église est là pour faire entendre la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul disait à Timothée pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Et il ajoute, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. Favorable ou non, ça ne veut certainement pas dire casser les pieds aux gens. Je pense que Il faut user aussi de sagesse. En 86, c'est pas d'hier, j'étais en Pologne, à Cracovie. Certains savent que je parle un petit peu de polonais, parce que j'ai des ancêtres polonais, je le comprends un peu. Et là, c'était encore l'ancienne Pologne, et j'avais besoin de faire des photocopies, et pour faire des photocopies à cette période en Pologne, fallait chercher loin pour trouver un endroit. Et on m'avait donné une adresse où on pouvait faire des photocopies. Alors j'étais dans les rues, il faisait beau d'ailleurs, c'était au mois de mai, c'était magnifique, un temps magnifique, un temps de printemps, un peu comme aujourd'hui. Et puis je demande à un passant, donc avec mon polonais un peu maladroit, où est la rue telle et telle, je ne sais plus, voilà. Et il me dit, ben, suivez-moi, je vais dans cette direction. Alors très bien, je le suis. Et pour un peu me rendre sympathique, je ne sais pas, je regroupe deux, trois mots de polonais et je lui dis, il fait beau aujourd'hui, en polonais. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire en polonais, enfin peut-être un petit peu plus, mais guère plus. Et il se lance dans toute une discussion en disant, oui, il fait beau, mais vous savez qu'un jour ce sera la fin du monde. Et là, ce sera vraiment terrible. Et j'ai compris que j'avais en face de moi un témoin de Jéhovah. Et en fait, j'étais dans une situation très désagréable, parce que je ne pouvais pas lui répondre. Mon polonais ne le permettait pas. Alors il avait tout loisir de continuer à, entre guillemets, m'évangéliser jusqu'à ce qu'on arrive à la fameuse rue que je cherchais. Je pense que c'est une façon d'insister un peu injuste, un peu qui pour moi était désagréable, parce qu'il savait très bien, il avait très bien vu que j'étais étranger. Mais n'empêche, il a quand même essayé, et c'est peut-être tout à son honneur, je ne sais pas. Je crois que parfois nous sommes aussi comme ces Athéniens qui dirent à Paul, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Quel impact la parole de Dieu que nous entendons chaque dimanche a-t-elle sur notre vie? Quelle transformation opère-t-elle en nous? Alors bien sûr, je ne doute pas qu'elle agit, cette parole comme que nous entendons, comme une nourriture spirituelle, et qu'elle retentit dans notre cœur comme une voix qui vient d'en haut, parfois même sans que nous en rendions compte. Vous savez, une fois, dans une réunion, Mike Evans, que certains connaissent ici, qui est à l'origine de l'Institut biblique de Genève, enfin, la transformation de l'Institut biblique de Genève en ce qu'il est maintenant, dans une église, il a dit, est-ce que quelqu'un se souvient de la prédication de dimanche dernier ? Bon, peu de personnes ont pu répondre à cette question. Et voilà, puis après le culte, une personne lui a dit, écoutez, moi je ne me souviens pas de ce que j'ai mangé dimanche dernier, mais je sais que ça m'a nourri. Et c'était suffisant. Voilà, je crois que parfois nous recevons des choses aussi sans nous en rendre compte, mais ça nous nourrit. Alors si Ésaïe encaisse la parole de Dieu, il pose une seule question qui en dit long sur sa connaissance de Dieu. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? C'est là l'espérance du serviteur de Dieu. Cette question évoque une fin, donc une grâce, de nouveau à l'œuvre. Oui, il y a un avenir pour le peuple de Dieu. Et cet avenir passe par la sainte descendance dont nous faisons partie. Dieu promet un royaume éternel, des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et il annonce une sainte descendance. Quel magnifique projet. Nous en faisons partie. Alors ne nous décourageons pas. Oui, Dieu pardonne nos péchés, les trois fois saints. Il nous envoie. Il fait de nous des témoins de sa grâce, de son amour Et il est encore temps de se tourner vers lui. Prions Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, cette parole si riche, cette parole qui nous fait tant de bien, mais cette parole aussi qui est sans concession par rapport au monde dans lequel nous vivons, qui appelle le péché péché et qui se rend compte que les hommes se détournent de leur Créateur. Seigneur, aide-nous à être de ceux qui te glorifient, à être de ceux aussi qui te suivent, à être de ceux qui t'aiment, qui te servent, qui témoignent de ton amour jusqu'au jour où nous serons avec toi dans ton éternité. Amen.